Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussa Oponde.
Conclave de Nairobi autour de Joseph Kabila, une nouvelle coalition baptisée Mouvement Sauvons la RDC voit le jour. Une plateforme d'opposition qui rejette la condamnation de l'ancien président et appelle à un dialogue national inclusif. À Kinshasa, le dollar flambe à nouveau. Les cambistes vendent le billet de 10 dollars jusqu'à 22 500 francs congolais. Une hausse qui alimente la spéculation sur les marchés de change. Sensibiliser plutôt que subir, François Milabio de Caritas Développement Kindu appelle les communautés du Maniema à s'impliquer dans la prévention des catastrophes. Il est l'invité de ce journal. Bonjour à tous. Le conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays, convoqué à Nairobi au Kenya par l'ancien président de la République Joseph Kabila, met en place une nouvelle plateforme politique dénommée le Mouvement Sauvons la RDC. D'après la déclaration finale de ce conclave publiée hier mercredi, l'objectif de ce mouvement est de mener des actions en vue de mettre fin à la dictature et restaurer l'autorité de l'État. Selon des sources sur place, à l'issue des travaux, les opposants présents à cette rencontre ont désigné Joseph Kabila comme président de ce mouvement. Ses opposants décident notamment d'endosser les 12 points de sortie de crise en RDC proposés par Joseph Kabila lors de son dernier discours à la nation. D'autres détails avec Grace Hamzati.
Réunis mardi et mercredi autour de l'ancien président pour un conclave sur l'avenir du Congo, les acteurs politiques et figures de la société civile rejettent l'arrêt de la haute cour militaire portant condamnation à mort de Joseph Kabila, considérant que cette décision est nulle et sans effet, car contraire à la Constitution et à la loi portant statut d'ancien chef d'État. Les participants ont dressé un diagnostic alarmant du pays, dénonçant une crise multiforme due, selon eux, à des dérives politiques, économiques et sociales. Ils accusent les pouvoirs en place de violer la Constitution, de restreindre l'espace démocratique et d'instrumentaliser la justice. Le conclave appelle à un dialogue inclusif soutenu par la CENCO et l'ECC pour sortir de la crise, rejetant tout monologue politique projeté selon eux par le président Félix Tshisekedi. Ses opposants affirment que ce nouveau cadre politique, le mouvement Sauvons la RDC, vise à mettre fin à la tyrannie, restaurer la démocratie et favoriser la réconciliation nationale. Le mouvement décide d'engager une offensive diplomatique pour sensibiliser la communauté internationale sur la crise qui déchire la RDC et exige le retrait de toutes les troupes étrangères et des mercenaires du territoire congolais. Enfin, le mouvement appelle la population à résister à la dictature pour sauver la RDC.
Le parti au pouvoir UDPS qualifie de non-événement ce qui vient de se passer à Nairobi autour de Joseph Kabila. Selon Daniel Asselo, cadre de ce parti qui intervenait hier mercredi dans l'émission Dialogue entre Congolais animée par Kélin Kouté, l'ancien président de la République condamné à mort par la justice congolaise n'a aucune leçon à donner en ce qui concerne notamment la démocratie. On écoute Daniel Asselo dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Est-ce que Joseph Kabila peut parler de la dictature dans ce pays?
Eux-mêmes, dans leurs textes, ils vous disent quoi? Qu'ils ont fait leur tout ce qui a été préparé par Joseph Kabila. Et donc, c'est Joseph Kabila qui organise son histoire, qui invite des vrais Congolais, des professeurs d'université, des gens vont en bonne veste autour de Joseph Kabila pour parler de la dictature au Congo. Joseph Kabila qui nous a fait, nous, UDPS, qui a fait aux Congolais tout ce qu'il a fait pendant tout son régime, qui a tout pris. Je parle des Congolais en démocratie, ce qu'ils ont subi de la part de Joseph Kabila. Je me pose la question de savoir comment de vrais Congolais peuvent aller à côté de Joseph Kabila, commencer à parler démocratie, commencer à parler viol. Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait dans ce pays pour nous faire pleurer?
Alors, on vous accuse, vous, UDPS, de restreindre l'espace démocratique et instrumentaliser la justice.
L'espace est démocratique? Non. La réalité, c'est qu'en face de nous, il n'y a rien.
Donc, pour vous, l'opposition n'existe pas en RDC?
Il n'y a rien en face de nous. Ça m'étonne. Parce que nous faisons quoi? Est-ce que nous avons un jour dit à quelqu'un, vous avez une idée à faire passer dans l'opinion, vous voulez faire une marche, ne sortez pas? C'est à quelle occasion nous l'avons fait?
La spéculation sur le marché de change se poursuit hier mercredi à Kinshasa. Un billet de 10 dollars s'est négocié entre 20 000 et 22 500 francs congolais chez les cambistes contre 18 000 à 19 000 francs le week-end dernier. Les cambistes accusés d'alimenter cette spéculation expliquent qu'ils essaient de faire un peu de marge bénéficiaire tout en se rapprochant du taux affiché par la Banque centrale du Congo. Celle-ci indique à ce jour un taux de 21 000 120 francs congolais pour 10 dollars. Nos reporters ont parcouru plusieurs points de change de Kintambo Magazine à Ngiringiri, en passant par le rond-point Wileri à Lingwala et Petro-Congo à Massina. C'est un reportage signé Lucky Nzao, Wami Ngitukulu et Rachel Kalombe.
Pour les cambistes rencontrés, c'est aussi question de gagner quelque chose de leur travail. Francis Kayembe, un des échangeurs de monnaie à la place Kitambo Magasin, nous parle du taux qu'il applique ces jours.
Hier soir, la banque était à 21 500. Ce matin, on nous a lancé le message que le taux actuel, c'est 21 000. Et pourquoi on change aussi avec 21 000? Parce qu'on ne peut pas faire un travail que tu ne peux pas avoir le bénéfice. Tu devais gagner aussi les 500 des surplus là.
Roland, un des cambistes de rond-point Wileri, nous parle de la différence qu'il peut y avoir sur cette variation de prix sur les terrains entre gros et détaillants.
À la banque, le taux fixé, c'est à 23 000. Alors, des grossistes se rappliquent à la banque pour l'en procurer à 23 000. Donc, tu crées une entreprise pour que vous puissiez aussi l'en bénéficier. Donc, eux ne peuvent pas afficher au tableau 23 000 comme eux le récupèrent à la banque. Ils vont aussi le réduire, soit le mettre à 22 000. Parce qu'en 22 000 francs, eux aussi en bénéficient 1 000 francs. Pour aussi les détaillants, moi, je ne peux pas aller à la banque acheter le franc congolais. Moi, je me rapplique chez des grossistes. J'ai que 200 dollars qu'on fond. Alors, on me donnera à 22 000. Mais moi, je ne dois plus le vendre à 22 000. Moi aussi, je dois réduire pour bénéficier aussi quelque chose.
La Banque centrale a signalé de son côté que les transactions de change sont traitées de gré à gré selon le cours déterminé par le jeu de l'offre et de la demande.
Au Nord Kivu, il se constate une augmentation de la production des bananes plantains sur l'axe Bwerimana-Minova, ce environ 8 mois après le retour des populations dans ces villages situés à cheval entre le territoire de Massissi au Nord Kivu et celui de Calais au Sud Kivu. Cette productivité agricole impacte le prix de ce produit sur les marchés de Goma. Plus de détails dans ce reportage.
Ces 8 mois de retour sont caractérisés par une accalmie dans la zone de Minova et Bwerimana témoigne ces notables de la région. Ce qui justifie selon lui cet accroissement de la productivité agricole, notamment pour ce produit principal qui est la banane plantain.
C'est-à-dire qu'il y a accès vraiment facile aux champs. Actuellement, au niveau du champ, facilement, on pouvait négocier ça à 4 000 francs, tout au plus 5 000 francs. Mais maintenant, nous parlons, il y a un bateau qui est en train de charger au niveau du port à Bwerimana ici. Après, acheminer à Bukavu, plus de 3 camions Fuso par jour.
Au niveau de Goma, cette augmentation de la production a une incidence sur le prix, comme en témoigne cette femme marchande rencontrée au marché de Kitoku.
À Goma, un régime de bananes qui s'est négocié à 20 000 ou 25 000 francs congolais, on les trouve actuellement à 15 000, 10 000, voire 7 000. Il y a vraiment baisse du prix.
Une quantité estimée à plus de 10 tonnes de bananes plantains est évacuée chaque jour actuellement par bateau sur le lac Kivu ou par véhicule vers Bukavu ou Goma.
La 5e édition du Forum d'affaires et économique Turquie-Afrique se tient à Istanbul ces jeudi 16 et demain 17 octobre sous les auspices du ministère du Commerce de la République de Turquie en coordination avec l'Union africaine. Le thème principal du Forum est renforcer les relations en Turquie-Afrique pour des gains mutuels avec des secteurs prioritaires comprenant notamment l'agriculture et l'alimentation, les énergies renouvelables et l'exploitation minière, la défense et les technologies numérique. Selon les organisateurs, le forum va rassembler plus de 4000 professionnels venus de tous les pays africains et des Turquies, y compris entre autres des représentants de la Banque africaine de développement, de l'Afrexim Bank, de la Turque Exim Bank. Plus de détails avec vous, Alain Rung.
Selon des sources turques, le volume commercial de la Turquie avec l'Afrique est passé de 5,4 milliards de dollars en 2003 à 32,8 milliards de dollars l'an dernier. L'objectif final est d'atteindre 50 milliards de dollars, puis 75 milliards de dollars. La Turquie vise à renforcer ses relations économiques avec les pays africains selon les principes gagnant-gagnant, contribuant à l'intégration, au développement économique et à la croissance industrielle du continent. Les exportations turques vers l'Afrique ont atteint 21,5 milliards de dollars en 2024, tandis que la même année a connu les importations turques en provenance d'Afrique ayant totalisé 11,3 milliards de dollars selon les mêmes sources. Le premier jour, le panel Dialogue Turquie-Afrique sur le leadership et l'entrepreneuriat des femmes se tiendra en présence de la première dame Emine Erdogan de la République de Turquie et de la première dame Ana Afonso Dias Lourenço de la République d'Angola. Des femmes d'affaires turques et africaines partageront leurs expériences dans la transformation du paysage économique, discuteront des opportunités de collaboration et exploreront des moyens de promouvoir une participation accrue des femmes dans les postes de direction.
Clôture hier mercredi à Lubumbashi de la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme. Les participants venus de plusieurs provinces du pays ont réfléchi notamment sur le rôle de l'État dans la régulation du tourisme, le rôle des provinces dans la promotion du tourisme ou les défis liés à l'accessibilité aux sites touristiques du Haut-Katanga. À l'issue des échanges, des recommandations ont été formulées par les participants. Paulin Munanga nous en parle.
Il est recommandé au Parlement de doter le ministère du Tourisme d'un budget conséquent. Et ce ministère devrait mettre en place un cadre de concertation au niveau provincial et national pour le développement du secteur touristique. En outre, le ministère du Tourisme devrait recourir au partenariat public-privé pour la réalisation des projets d'infrastructures touristiques et rechercher des capitaux pour les investissements afin de développer le secteur. Au gouvernement, il est recommandé d'améliorer le climat des affaires et les incitations fiscale. Il est aussi demandé au gouvernement d'insérer dans les programmes scolaires et universitaires des programmes de visites guidées. Les participants aux travaux de la 5e édition de la Semaine congolaise du tourisme recommandent au gouvernement provincial du Haut-Katanga de faire un lobbying pour qu'une quotité soit prélevée sur les mines afin de financer la construction des infrastructures touristiques, notamment la réhabilitation des voies d'accès menant vers des sites touristiques. Notons que la réhabilitation de quelques lieux touristiques dans les province figure aussi parmi les recommandations. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En Ituri, les habitants des localités de Bali, Lida et Schubert, dans les territoires de Djougou et Mahagi, viennent de bénéficier de plusieurs projets d'intérêt communautaire construits par la MONUSCO. Il s'agit notamment des lampadaires solaires, des routes et des ponts qui ont été remis mardi aux autorités locales. Pour la mission onusienne, ces projets visent à renforcer la sécurité, favoriser la cohésion sociale entre les communautés et stimuler les échanges économiques en faveur de plus de 100 000 bénéficiaires. Isaac Remoyopé.
Plus de 40 lampadaires solaires ont été installés au village de Bali, notamment au marché et au centre de santé local. Selon des sources sur place, cette initiative a permis de réduire la criminalité et de faciliter la circulation la nuit, surtout pour les malades qui doivent se rendre à l'hôpital. À Schubert, la MONUSCO a réhabilité la route et construit un pont reliant les trois groupements Damé, Nyoka et Mbrobo. Sans ces travaux, ces entités seraient restées enclavées avec de lourdes conséquences pour la population, les élèves et les commerçants, surtout pendant la saison des pluies. Un notable local témoigne.
Nous avions été dépassés bien avant pour réussir à traiter ça ou bien à faire construire ces ponts. La MONUSCO, c'est l'ange Gabriel qui était venu chez nous ici dans notre milieu, a fait une chose ici louable.
À Lida, les ponts baptisés Amani relient désormais les centres commerciaux de Fataki à plusieurs villages environnants. Objectif, renforcer la cohésion sociale entre les communautés locales et faciliter l'acheminement des vivres au marché. Au total, plus de 100 000 personnes bénéficient directement de ces projets d'intérêt communautaire dans ces zones longtemps affectées par les conflits armés. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
À Kananga, dans la commune de Nganza, l'eau potable est un luxe. Les habitants recourent à l'eau des puits ou de forage. Depuis plus de 10 ans, le précieux liquide n'écoule plus des robinets de la régie des eaux et la population a du mal à se laver régulièrement les mains. André Katende s'y est rendu hier mercredi à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du lavage de mains. Voici son reportage.
Dans cette parcelle de l'avenue des dispensaires au quartier Salongo Mwimba, nous trouvons Martin Chipamba. Ce sexagénaire est assis devant sa maison. Il fait savoir que c'est depuis plus d'une décennie que l'eau n'écoule pas du robinet de la régie des eaux dans ces quartiers.
La régie des eaux n'a pas envoyé l'eau dans ces quartiers il y a plus de 12 ou 15 ans.
Cette situation affecte même des structures sanitaires du quartier. Au centre de santé Salongo Mwimba, par exemple, il n'y a pas un dispositif de lavage de mains. Raphaël Ntumbakayenga est infirmier titulaire de ce centre.
Bonjour Yité,
Il fait savoir que ce centre a bénéficié d'un bâtiment moderne depuis la fin de l'année 2024 grâce au fonds social. Mais la difficulté en eau potable demeure un casse-tête. Le centre ne dispose que d'un bidon d'eau qui permet à ses agents d'étancher leur soif. Une difficulté qui ne permet pas aux agents et patients de se laver régulièrement les mains.
Je voudrais lancer un message aux autorités. Ils nous créent de l'eau, non seulement pour l'eau potable, mais aussi pour l'eau que nous devons utiliser pour les mamans qui accouchent.
Nos efforts pour entrer en contact avec les directeurs provinciaux de la régie des eaux se sont avérés vains. Kananga, André Katinde Ngalamulume, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À Antananarivo, les discussions s'intensifient autour de la future architecture de la transition. Le colonel Michael Randrianirina, nouvel homme fort du pays, enchaîne les rendez-vous avec quatre autres colonels issus de l'armée de terre. Ensemble, ils s'emploient à mettre en place le futur comité chargé de piloter la transition militaire. Le colonel Randrianirina prêtera serment en qualité de président de la refondation de la République demain vendredi.
L'invité.
Notre invité est François Milabio, chargé des projets à l'ONG Caritas Développement à Kindu, dans la province du Maniema. En marge de la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, célébrée le 13 octobre dernier, il revient sur l'importance de sensibiliser la communauté à s'impliquer activement dans la prévention des catastrophes plutôt que d'attendre uniquement des réponses après leur survenue. François Milabio répond aux questions de Florence Kizalunga.
François Milabio, bonjour.
Bonjour, Maman Kiza.
Pourquoi procéder aujourd'hui à la sensibilisation de la communauté sur les risques de catastrophes?
Chaque le 13 octobre, on célèbre la journée internationale de réduction des risques de catastrophes dans le monde. Et étant donné que nous nous butons à beaucoup de catastrophes ici chez nous, à Kindu principalement, et dans la province du Maniema en général, il nous est donc souhaité que nous célébrons cette journée et sensibilisons toutes les parties prenantes pour qu'enfin nous arrivions à réduire les catastrophes et non toujours financer les catastrophes. Et cela a été appuyé par CAFOD, mais nous le faisons en partenariat avec l'Université de Goma et d'autres partenaires, organisations humanitaires qui sont indiquées là.
À quel type de risque que les communautés du Maniema font face?
La communauté du Maniema fait face à plusieurs catastrophes. Nous avons d'abord l'inondation pluviale, c'est-à-dire il y a des grandes pluies, des pluies torrentielles qui attaquent les maisons et qui fait même des morts. Nous avons l'inondation fluviale. Vous savez vous-même qu'en un certain moment, presque chaque année, le fleuve gonfle et ça attaque les maisons. Ça détruit des maisons. Il y a même des morts par rapport à ça. Nous avons aussi des vents violents par-ci, par-là et des feux de brousse. Bien sûr, on ne peut pas oublier la guerre qui fait beaucoup de déplacés, surtout dans la partie Kabamba, Kassongo, ainsi de suite. Donc ce sont là les catastrophes que Maniema, la province, connaît pour le moment.
Est-il réaliste ou utopique de réduire les risques des catastrophes, monsieur Milabio?
Le risque des catastrophes n'est pas utopique, mais c'est une réalité. Cette réalité-là doit être dans les cœurs et même dans les raisonnements de tout le monde. Nous devons vraiment, et c'est ça même la sensibilisation que nous sommes en train de faire, simplement pour susciter à tout le monde de regarder d'abord comment réduire, comment prévenir les catastrophes que chaque fois venir assister les gens qui sont déjà dans des conditions très difficiles, qui sont déjà victimes des catastrophes elles-mêmes. Donc, c'est une réalité. S'il faut que je donne l'exemple, nous savons qu'avec la technologie actuelle, nous pouvons savoir s'il y aura une grande pluie aujourd'hui ou demain, ou à telle date, il y aura vent violent. Avec ça, si quelqu'un ou la communauté est informée, il peut prendre déjà des dispositions pour se protéger de cette catastrophe-là. C'est comme ça que nous pouvons réduire et même prévenir les catastrophes. Nous pouvons même faire des actions, les actions de prévention, par exemple, curer les rigoles, tracer des rigoles, surtout pour des zones de stagnation. Nous pouvons les faire déjà avant que les pires ne nous arrivent.
Alors, comment matérialiser ça?
Oui, on peut matérialiser. D'abord, nous devons faire une évaluation. À Kindu, quels sont les risques de catastrophes que nous avons? À Kibombo, ainsi de suite. Ensuite, nous devons élaborer des plans d'intervention. Parce que nous avons déjà des catastrophes, nous avons déjà fait des analyses. analyse, nous devons arriver à élaborer des plans d'intervention au niveau gouvernemental, ainsi de suite. Ensuite, nous devons maintenant entreprendre des actions pour atténuer les risques. L'assurance, c'est que la population doit être d'abord informée. Ensuite, nous disons que l'évaluation doit être faite. Nous devons élaborer les plans et passer aux actions pour atténuer les risques de catastrophe.
Pour finir, qu'est-ce que vous recommandez?
Nous avons quelques recommandations, peut-être qui peuvent être augmentées par n'importe qui. Mais nous disons qu'il faut augmenter le financement de la réduction des risques de catastrophe. Dans le cadre des budgets publics, nous devons augmenter le financement de la réduction des catastrophes. Nous devons veiller à ce que tous les développements publics et les investissements privés tiennent compte des risques et soient résilients. Nous devons répondre à ces deux appels pour transformer le paysage des risques de catastrophe en accélérant la mise en œuvre du cadre social. Les acteurs de la population civile doivent inclure cette demande dans leur thème de plaidoyer. Donc nous voudrions à ce que à chaque plaidoyer, même les humanitaires et les gouvernements, tout le monde doit mettre cette rubrique-là des risques de catastrophe. Les institutions étatiques doivent changer la donne, mettre dans leur planification la réduction des risques de catastrophe plutôt que de réserver un budget pour des réponses étant donné que les conséquences sont coûteuses que l'anticipation. Et finalement, nous pouvons dire que le gouvernement doit avoir la vision de réduction des catastrophes pour minimiser les coûts de la réponse aux catastrophes.
François Milabio, je vous remercie.
Merci beaucoup, Maman Kiza.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Polly Mousalia et mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Réécoutez-le sur www.radiokapi.net.